Hey, salut, c'est Irvine, le coach canin, et bienvenue dans ce nouveau podcast du Toto pour l'UFM. On est aujourd'hui le 12 mars 2022, il est actuellement 10h55, et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Delphine. Salut à toi Delphine, merci de ta confiance. Allez, je lis ta publi, let's go. Bonsoir à tout le groupe, je suis un peu désemparé. Mocha, ou Ipette croisée berger de 20 mois, est très joueuse et aime particulièrement que ses congénères lui courent après. Forcément, elle gagne à tous les coups. Depuis quelque temps, elle s'est mise à grogner et aboyer pour provoquer ses copains et les obliger en quelque sorte à entrer dans son jeu. Certains comprennent et lui courent après, et là c'est parti pour de superbes courses-poursuites, mais d'autres n'apprécient vraiment pas de se faire aboyer dessus et montrent les crocs. Sans compter les maîtres qui n'ont pas l'air vraiment tranquilles. J'ai peur qu'un jour, eh bien, ça tourne mal. Pensez-vous que je doive la reprendre quand elle fait ça? Si oui, comment? Car la pauvre, elle est dans le jeu. D'avance, merci pour votre aide. Merci à toi, du coup, Delphine, d'une part, eh bien, pour ta confiance en l'association Toto pour lui, et d'autre part, pour ta publication. Alors, ici, cas assez intéressant, aussi... Alors, j'allais dire atypique, mais en réalité, c'est pas si atypique que ça, mais par contre, dans la résolution, il faut effectivement faire attention. Comme tu l'as dit, Delphine, elle est dans le jeu. Donc, comment faire en sorte qu'elle comprenne d'être moins brusque, sans aller trop loin, pour qu'elle ne le voit pas, entre guillemets, comme une agression, comme quelque chose qui n'est pas bon pour elle. Parce que c'est bon pour elle. Jusque là, ce qu'il faut faire, c'est lui montrer comment faire. Et cela, avec respect, dans, je vais me répéter, mais dans le respect de sa psychologie profonde. Donc, on a un petit peu, je ne connais plus la citation, mais c'est un peu complexe, quoi. On va faire simple, hein. Donc, du coup, moi, ce que je te conseille ici, Delphine, c'est... Alors déjà, pourquoi elle fait ça? On pourrait déjà se dire, bon, est-ce dû aux hormones? Absolument pas, je ne crois pas. Déjà, elle a 20 mois, toutes celles et ceux... Alors, en fait, on a une approche par hypothèse, hein, sur une base scientifique. C'est pour ça que j'émets des hypothèses et j'essaye de valider ou invalider certaines hypothèses. En l'occurrence, ici, j'invalide une hypothèse selon laquelle on pourrait dire que c'est les hormones, etc. Parce que d'une part, elle n'est plus dans l'adolescence, elle a 20 mois. Donc du coup, on ne peut pas dire que ce soit ça. Et quand bien même ça serait ça, vous voyez où je veux en venir, hein, beaucoup de personnes pourraient se dire « Bon, mais il faut stériliser, castrer, etc. » Quand bien même, même si on rentre sur ce terrain, ça ne va pas régler le problème. Parce que pour moi, le problème réel à ce niveau-là, c'est plus à son niveau, au niveau de son énergie à elle. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'énergie. Et je pense que ce qu'on peut faire, c'est optimiser les processus, voilà, qu'on applique et qu'elle applique avec elle-même, et voir comment, par l'intermédiaire de l'enrichissement mental et physique, on peut réussir soit à réorienter certains comportements vers d'autres activités beaucoup plus appropriées, ou bien diminuer le comportement, notamment lorsqu'elle est en présence de d'autres congénères. Et pour ça, il y a des techniques spécifiques. Donc, je me suis un petit peu emballé, mais dans l'idée, il faut qu'on se base surtout sur le principe numéro 2. Je vais vous donner aussi le principe numéro 1, tant qu'à faire, histoire de... toutes celles et ceux qui m'écoutent d'avoir une culture générale là-dessus, de l'éducation positive scientifique. Alors le principe numéro 2, c'est que le but de l'éducation va être d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Ce qui signifie que toucher le chien est un comportement naturel et nécessaire, comme vous le savez. En l'occurrence ici, eh bien Mocha, elle a un comportement naturel et nécessaire. Donc c'est pour ça qu'il est très compliqué au final de réagir. Parce que si on réagit mal, étant donné que ce comportement naturel est nécessaire, elle va peut-être le prendre comme quelque chose qui n'est pas bien et elle peut généraliser à autre chose. Je m'explique. Imaginons, on la réprimande. Pour elle, c'est naturel et nécessaire. Donc, elle va vite faire un lien de cause et effet, un mauvais lien de cause et effet entre ses congénères et la réprimande qu'elle va avoir. Parce qu'elle ne va pas comprendre pourquoi on la réprimande. Vous voyez? Donc, du coup, pour éviter ça, il faut déjà qu'on comprenne ce principe, donc là je vous l'ai expliqué, et aussi le deuxième principe. Un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que notre attention est une récompense dans son processus éducatif. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est nos ressources, c'est nos outils, et on a des aptitudes afin d'appliquer ces outils. La première chose, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure là, à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur, essayer de voir si on peut optimiser. Là, c'est pas une reprise de son énergie ou une reprise de la gestion de l'énergie. Là, c'est une optimisation de l'énergie parce qu'en fait, au final, le seul problème actuellement que tu as, Delphine, c'est tout simplement les croisements. Donc, pour moi, l'hypothèse la plus viable, à valider ou invalider par rapport à la pratique que tu vas faire, c'est tout simplement de venir et puis d'essayer de voir si on peut optimiser l'énergie. Si on optimise l'énergie et qu'on voit qu'il y a une diminution de l'intensité du comportement, parce que c'est ça l'objectif, on va garder son comportement, mais on va faire en sorte que le comportement soit moins intense. S'il est moins intense, elle sera beaucoup plus douce dans ses interactions sociales avec ses congénères. Voilà. Et là, on a réglé le problème. Donc, on veut qu'elle continue à jouer. On veut qu'elle fasse des appels à l'action. Mais on veut qu'elle le fasse de manière beaucoup plus douce et beaucoup moins brusque au final. Hein. Voilà. On va pas aller plus loin. Donc, pour ça, à l'intérieur de la maison, tu peux opter pour, je le dis souvent, des tricks. Pas bouger, fais le mort, donne la patte. Tu peux le faire aussi à l'extérieur de la maison. Tapis de fouille, jeu intelligent, des éléments qui vont la stimuler mentalement. À l'extérieur de la maison maintenant, même chose. Une chose importante aussi, ce que tu peux faire, Delphine, toutes celles et ceux qui m'écoutent aussi, c'est d'essayer de voir si tu peux avoir une pluralité d'environnements différents que tu vas distiller comme ça dans la semaine où tu vas aller avec elle, par exemple. Je donne un exemple vraiment bateau, hein, dans les champs, ensuite en ville, ensuite et ainsi de suite. C'est-à-dire en gros, si tu changes d'environnement, imaginons que tu es en ville, tu changes d'environnement, toujours dans des quartiers sécurisés. Étant donné que c'est des quartiers différents, avec des paysages différents, donc ça veut dire, qui dit paysage différent, dit forcément découverte, recherche olfactive, visuelle, auditive, différent. Ça veut dire que ça va la stimuler. Et du fait que ça va la stimuler, dépense mentale. Bon. Donc là, on optimise. De l'autre côté, si tu as également du temps, tu as la possibilité, Delphine, d'opter pour des jeux, des activités sportives. Canicross, CaniVTT, si tu ne le fais pas encore. Ça, c'est si tu as du temps, parce que ça doit aussi concorder avec ton emploi du temps. Et le fait de faire ça, ça permet de quoi? Ça va permettre, je le disais tout à l'heure, de réorienter certains comportements vers une activité encadrée. Et avec la pratique, ta chienne, elle va très bien le comprendre. Elle va se dire, ah, ok, donc là, je sais que j'ai du punch, je vais tout donner, tout mon punch, je vais le donner dans cette activité. Alors, t'es pas forcé de faire une activité encadrée. Tu peux également créer tes propres activités. Typiquement, quand je parlais d'activités ou d'activités sous-jacentes à la recherche utilitaire, imaginons, rien ne t'empêche, par exemple, si tu as un jardin ou même dans un parc, de le faire toi-même en la faisant sentir des odeurs, en la faisant chercher et ainsi de suite. Tu comprends? Donc, du coup, tous ces éléments imbriqués entre eux, parce que l'objectif, quand je te donne des conseils à fort potentiel de personnalisation, c'est qu'ils soient imbriqués, qu'ils puissent s'autosuffire, mais en même temps qu'ils soient suffisamment corrélés pour avoir un impact l'un sur l'autre, c'est que lorsque tu vas appliquer tout ça, tu vas avoir un moment des retours. Et avec ces retours, tu vas encore mieux optimiser. J'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être pas, mais j'aime bien appliquer la méthode éducative positive, scientifique, que je vous coach depuis des années, avec ce qu'on appelle la roue de Deminghe. Alors, la roue de Deminghe, c'est quoi? C'est tout simplement une approche par processus, quatre processus qui vont permettre, d'une part, de planifier les actions qu'on va faire, d'autre part, de faire ces actions, ensuite de les vérifier, et par la vérification, d'ajuster en fonction de si, oui ou non, il y a des choses à ajuster. Donc, il faut exactement qu'on fasse la même chose ici, toujours, sur une vision long terme. C'est-à-dire que ici, elle a ce comportement spécifique, et bien on va faire en sorte de régler ce comportement, imaginons, grosso modo à la louche, en 3 mois. Il est possible qu'on résolve le problème bien avant, peut-être en 1 mois, ou même 2 semaines, mais en 3 mois, on prend le temps. Voilà. Donc voilà ce que je te conseille par rapport à ça. L'autre chose que je te conseille aussi, c'est que si ta chienne, au final, elle est dans des interactions sociales. Ça veut dire, en gros, qu'elle communique et elle envoie un message. Soit ce message est compris par certains chiens, soit ce message n'est pas compris. Mais le fait est que lorsqu'on analyse un petit peu plus tel des éthologues, on se rend compte qu'il y a un langage universel qui est représenté par ce qu'on appelle les signaux d'apaisement chez les animaux, chez les chiens, en réalité. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que si elle n'utilise pas son langage universel et qu'elle a plutôt opté pour un langage spécifique à elle qu'elle a appris sur le tas, ou bien que ce langage a été intensifié et réinterprété par rapport, là je lis à l'hypothèse selon laquelle il y a peut-être une gestion de l'énergie à faire, une intensité beaucoup trop importante qui fait qu'elle n'arrive pas à se canaliser et qui fait donc qu'elle va avoir ce comportement, forcément, tu auras des incompréhensions. Donc l'idée ici, ça va être d'essayer de voir si on peut se rapprocher le plus possible, donc d'essayer de la faire oublier le langage de jeu, en fait, qu'elle a actuellement, pour qu'elle puisse s'approprier un langage beaucoup plus universel, beaucoup plus doux, beaucoup plus simple de compréhension pour tous les chiens. Donc les chiens qui sont habitués avec elle vont le comprendre également, et les chiens qui ne sont pas habitués avec elle vont le comprendre surtout. Parce qu'au final, elle va changer de langage, tu comprends? Donc du coup, pour ça, c'est très simple. Je donne souvent cet exemple. Un chien est la somme des 5 autres chiens qu'il fréquente. Donc ça, en fait, c'est après une analyse, une réflexion, en fait, de la citation initiale qui est que nous, humains, nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons, et je me suis vite rendu compte que pour les chiens, c'est exactement la même chose. Je définis n'importe quelle personne qui écoute ce podcast de venir, vous prenez un chien calme, totalement calme, vous le laissez une semaine, avec 5 autres chiens qui ne sont pas calmes du tout et qui ne sont pas codés. Je vous parie à 1000 milliards de pourcents que le chien, à un moment, il va, forcément, il a des automatismes, mais ces automatismes vont progressivement, au bout d'une semaine, se défaire et qu'il va avoir des comportements qu'il n'avait pas initialement, car le chien apprend par mimétisme et par conséquent, il a été influencé par, un effet de groupe, en fait. Voilà. Donc, ça marche d'un côté, mais aussi de l'autre. Du négatif, mais aussi vers le positif. C'est-à-dire qu'il faut se dire que si vous avez un chien qui... imaginons, dans le cas de Mocha, un problème de communication. C'est pas véritablement un problème, en fait, hein, parce que Mocha, elle communique parfaitement bien, juste qu'elle est un petit peu trop brusque. Mais juste ça, vous la mettez avec un groupe de 5 autres chiens qui, eux, sont bien codés et qui comprennent. Il y a fort à parier qu'avec le temps et avec la pratique, et aussi le fait qu'elle fréquente ces autres chiens bien codés, en tout cas, dans notre exemple, elle va à un moment, par mimétisme, user du même langage pour l'appel au jeu. Vous voyez ? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et lorsqu'on a compris ça, après, tout roule. Donc, voilà un petit peu ce que je te conseille là-dessus. Donc, certains lui courent après elle. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, effectivement, il n'apprécie pas de se faire aboyer dessus. Une autre chose que tu peux faire, c'est ce que j'appelle la méthode Primac. La méthode Primac, un classique, hein, on l'utilise souvent pour les jeunes parents, l'utilisent pour leurs enfants, mange tes épinards et t'auras de la glace, typiquement, passe le balai et puis je te donne un cookie, enfin vous avez compris le concept, en gros c'est de faire en sorte, en tout cas pour le chien, que ces distractions deviennent des récompenses. Et pour ça, on va se baser sur le principe numéro 1 que je vous ai dit tout à l'heure là, mais je le rappelle, un chien recherche deux choses dans sa vie, récompense et attention. Comment ça marche? Si tu vois que ton chien commence à aboyer et à tirer, imagine. Ici, on le prend aussi avec des pincettes, il faut faire attention parce que si on a le mauvais comportement, comme je l'ai dit via le principe numéro 2, il y a fort à parier qu'il va faire un mauvais lien de cause et effet. Donc pour ça, on va juste le laisser faire, on ne va pas intervenir. Il tire, on le laisse tirer. Mais à un moment, en fait, on rentre dans sa psychologie. Il va réfléchir, il va se dire, bordel, j'ai envie de jouer. Mais j'aboie, mais rien ne se passe. Je tire, mais rien ne se passe. Forcément, t'es sa référente affective, il va se retourner vers toi, il va te regarder. Et là, il va s'arrêter en te regardant. À un moment ou à un autre, elle va s'arrêter, pardon. Et donc, par conséquent, lorsqu'elle va s'arrêter et que tu vois qu'elle est beaucoup plus calme, tu félicites par la voix et tu lui donnes l'opportunité maintenant d'aller jouer avec son copain ou sa copine. Et ce qui va se passer en réalité, c'est quoi? C'est qu'elle va comprendre la chose suivante. Ah, mais attends. Lorsque j'ai adopté ce comportement spécifique, j'ai réussi à avoir ce que je voulais, c'est-à-dire jouer. Tu vas aller plus loin maintenant. Là, on a fait la première étape. La deuxième étape, c'est de faire exactement la même chose, mais de lui demander un assis. Quand tu vas lui demander de s'asseoir, pourquoi ça intéresse? Parce que le assis est un signal d'apaisement qui va d'une part l'apaiser elle, mais également apaiser les autres congénères. Et c'est exactement ce que l'on veut, apaiser les autres congénères. Si elle envoie un signal qui est différent, alors il y a des congénères qui vont comprendre, mais on se base sur les congénères parce que c'est là le problème, les congénères qui ne comprennent pas. Si on lui demande, lorsqu'elle se calme, assis, et ensuite on lui donne l'opportunité d'aller jouer, le fait qu'elle se soit assise envoie un signal fort à ses congénères qui n'en comprennent pas. Ah mais, elle apaise la situation. Ok, je ne suis plus enclin à une interaction avec elle. Ok? Les référents affectifs ou les référentes affectives, même chose. Et l'objectif que l'on veut atteindre, c'est que lorsqu'elle est assise, elle puisse d'une certaine manière, si tu veux, se canaliser, d'une part, et avoir les bons codes, et avec la pratique, le faire automatiquement. Et lorsqu'elle va le faire automatiquement, à un moment, tu n'auras même plus besoin de lui demander de s'asseoir, elle va le faire toute seule. C'est-à-dire que le assis devient d'une certaine manière un acte libérateur pour elle parce qu'elle sait derrière, alors acte libérateur, c'est pas forcément le bon terme pour comprendre. Ça devient un acte qui lui indique, elle pense que grâce à ça, elle va avoir de bonnes choses. Et c'est le cas. Et lorsque dans sa psychologie, elle a compris ça, elle l'a implémenté, elle l'a appliqué, testé, retesté, ainsi de suite, elle en fait une bonne habitude. Et à chaque croisement, elle va du coup s'asseoir. Et donc du coup, c'est comme ça qu'elle va dire bonjour. Et lorsqu'elle va dire bonjour comme ça, en complément de la gestion de l'énergie, en complément, eh bien, de, par mimétisme, imaginons si tu trouves des groupes canins où tu peux justement faire ça, en complément de tout ça, il y a fort à parier qu'elle va se calmer. Voilà un petit peu ce que je te conseille là-dessus. Alors, on va faire un petit récap. L'hypothèse selon laquelle c'est les hormones, etc., on invalide totalement, parce que ce n'est pas ça. Et quand bien même, imaginons quand bien même mon cas serait dans l'adolescence, ça ne serait pas ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les hormones vont intensifier un certain comportement. Mais si on a déjà, imaginons, un trop-plein d'énergie, et que les hormones viennent, ça va intensifier ce trop-plein d'énergie. Imaginons, on fait une stérilisation, une castration, ça va aucunement retirer ce trop-plein d'énergie. Ça va juste désintensifier légèrement, mais on aura toujours le problème. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, on en revient à la bonne hypothèse, c'est le fait que là, on se dit, il faut peut-être mieux optimiser son énergie, de telle sorte à ce que, lorsque son stock d'énergie est un peu plus réduit, elle va être moins intense dans le comportement qu'elle va avoir. Et ça reste logique, en fait. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'un chien est brusque ? Pour qu'un chien soit brusque, il lui faut de l'énergie. Si elle a moins d'énergie, elle ne peut pas être brusque. Voilà, c'est de la pure logique. Vous voyez ? On essaye de rester sur du bon sens, en fait. Et donc, du coup, on va donc appliquer des exercices personnalisés par rapport à ça. À l'intérieur de la maison, on peut même le faire à des périodes stratégiques et à l'extérieur de la maison aussi. En complément de ça, on le sait très bien, un chien fonctionne par mimétisme. Comme il fonctionne par mimétisme, on se dit qu'un chien est la somme des 5 autres chiens qu'il fréquente. Donc dans ce cas-là, s'il y a un petit problème de communication pour les appels au jeu, si on trouve des chiens, alors pas forcément 5, on peut commencer par 2 ou 3. Voilà, le plus important, c'est qu'il y ait une certaine récurrence. Et bien, ça va être très intéressant parce que par mimétisme, il va se dire « Ah, mais lui, il fait des appels au jeu calme comme ça et ça marche beaucoup mieux. » Et on se base sur le principe numéro 1. S'il voit qu'un comportement marche beaucoup mieux, il va prendre le raccourci du comportement qui marche beaucoup mieux. S'il voit qu'il arrive à se faire entendre avec un comportement beaucoup plus calme, elle arrive à se faire entendre, pardon, je vais y arriver, avec un comportement beaucoup plus calme, et bien, du coup, elle aura tendance à opter pour ce comportement. Et là, on ne l'a pas réprimandé, on n'a rien fait, on a respecté sa psychologie. On est dans le respect et la positivité en permanence. Et comment on arrive à y rester ? Tout simplement parce que on a compris comment elle fonctionne. Vous vous souvenez des deux principes ? Mais également l'observation. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Je pense qu'on a fait le tour du coup. Ouais. Et puis aussi la méthode Primac, comme je l'ai dit, qui peut être relativement intéressante. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Le plus important aussi, c'est de se baser sur ce que je t'ai dit. Roue de Demague, plan, on planifie. Do, on fait. Check, on vérifie. PDC, A. Alors, A, dans le modèle de Domingue, c'est act, mais franchement, c'est adjust. On ajuste. Donc, on planifie, on fait. Donc, on planifie, c'est-à-dire, OK, ça, je vais faire ça comme ça à telle période. Par exemple, la dépense mentale, je vais le faire le lundi. Alors, du lundi au vendredi, imaginons à 8h du matin. C'est ça, on planifie. Et le fait, ça va être le fait de faire ce qu'on a planifié, au final. Bon, logique. Oui, en fait, logique. Et de l'autre côté, maintenant, on vérifie les résultats. Voilà, check. Et ensuite, on ajuste. Adjust. Le A, c'est adjust ou act. On ajuste par rapport à ses résultats. Ah, mais tiens, elle a cette réaction. Voyons si je fais ça, quelle réaction elle va avoir. Et ainsi de suite. et tu ajustes progressivement. C'est comme ça qu'on optimise. Donc voilà un petit peu, viens vite, ce que je te propose dans ton podcast à toutes celles et ceux qui m'ont écouté. J'espère que ça vous a plu également. Comme d'habitude dans l'association Toto pour lui, je reste disponible afin de répondre à d'autres questions, si c'est nécessaire pour toi Delphine. On est là pour optimiser. Donc je t'invite justement à nous tenir informés, comme ça on pourra t'aider au mieux et toujours de manière personnalisée. C'est pour ça que je fais l'effort justement de faire un podcast. Donc voilà pour le coup, c'était Irvine le coach canin. Comme d'habitude, je vous invite à aller sur le site internet toutouporlui.com afin de trouver d'autres astuces. On a une base de ressources, une base de connaissances, donc je vous invite à y aller. Sinon, il y a aussi la chaîne YouTube toutouporlui TV. Et si vous n'êtes pas encore sur le mouvement et si vous souhaitez que je réponde à vos questions, c'est éducation positive pour les chiens officiels. Entre crochets, tirer du 6, Toto pour lui. Voilà, c'était Irvine le coach canin et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao.